Chapitre 44. La tempête approche. Perrine ouvrit les yeux lentement et s'abandonna à la contemplation du plafond de plâtre blanc d'une accablante banalité. Au bout d'un moment, il s'avisa qu'il était dans un lit à quatre montants, reposant sur un matelas de plumes. Une couverture jusqu'au menton, la tête sur un confortable oreiller en plumes d'oie, il captait une myriade d'odeurs. Les plumes, la laine de la couverture, un fumet de volaille en train de rôtir et le parfum du pain et du pain d'épices en cours de cuisson. Une chambre de l'auberge. La lumière qui filtrait des rideaux blancs militait en faveur d'un glorieux lever de soleil. Se palpant le flanc, Perrine n'y trouva plus trace d'une blessure. Mais il se sentait plus épuisé que jamais. Un prix des plus modestes à payer, cependant, pour une telle guérison. Cela dit, il avait aussi la gorge sèche et en feu. Lorsqu'il bougea, Fayle se leva d'un bond du fauteuil qu'elle occupait près de la cheminée, jeta au loin une couverture rouge et s'étira. Vêtue d'une de ses jupes d'équitation favorite, un modèle sombre cette fois, elle devait avoir dormi sur son siège pour que le tissu soit froissé à ce point.
« C'est loin, Lana ? »
dit-elle.
« Tu as besoin de sommeil. »
Perrine, désignant la carafe posée sur la table de chevet, sa compagne s'empressa de remplir d'eau un gobelet puis de faire boire son patient.
Il faut que tu restes au lit encore 2 ou 3 jours, jusqu'à ce que tes forces soient revenues.
Des propos rassurants et normaux, en surface. Mais quelque chose parut suspect à Perrine. Le ton de Fayle, les coins de ses yeux un peu plissés.
Qu'est-ce qui cloche ?
Fayle reposa le gobelet sur la table de chevet et hissa sa jupe.
Rien du tout.
Là, il était évident qu'elle ne disait pas tout.
Fayle, ne me mens pas. Te mentir, moi ? Je vais te faire apporter un petit déjeuner, et tu peux t'estimer heureux que je le fasse après ce que... Fayle.
Perrine, ayant prononcé son prénom sans la moindre tendresse, la jeune femme parut surprise et inquiète. Elle essaya le coup du regard hautain, mais le malade ne s'en laissa pas compter. Ses astuces de bonne femme ne fonctionneraient pas, et voilà tout.
Je suppose que tu as le droit de savoir. Mais tu resteras dans ce lit tant qu'Alana et moi t'y obligerons. Loyal et Gaul sont partis.
« Comment ça, parti ? Que veux-tu dire ? Ils nous ont laissés ? » ?»«
En un sens. Les sentinelles les ont vus ce matin à l'aube, s'enfoncer ensemble dans le bois de l'ouest. Bien entendu, personne n'a tenté d'arrêter un aïel et un ogier. J'ai été informé il y a 1 heure. Ils parlaient d'arbres, Perrine. De la façon dont les ogiers chantent pour les végétaux.
« D'arbres ? C'est ce maudit portail ! Que la lumière me brûle ! Je leur ai dit de ne pas... Ils se feront tuer avant d'y arriver !»
Perrine repoussa sa couverture, s'assit, sortit les pieds du lit et se mit debout sur des jambes tremblantes. À cet instant, il s'avisa qu'il était nu comme un ver. Mais si ses femmes espéraient l'emprisonner sous une couverture, elles se trompaient lourdement. Ses vêtements étaient proprement pliés sur le dossier d'un fauteuil, près de la porte. Ses bottes reposaient à côté et sa ceinture pendait à une patère, la hache à sa place habituelle. Titubant jusqu'à ses habits, il commença à se vêtir.
« Tu fais quoi exactement ?»
demanda Fayle.
« Au lit ! Et plus vite que ça !»
Un point sur la hanche, elle désigna le lit de l'autre main, comme si elle eût pu y transporter son homme à distance.
« Ils n'ont pas pu aller bien loin. Surtout à pied. Gaul refuse de monter à cheval, et Loyal répète sans cesse qu'il préfère ses jambes à n'importe quel canasson. Avec Trotteur, je les aurais rattrapés avant midi. »
Perrine Alibara, tu es fou allié. Comment les retrouveras-tu dans ce bois ?
Je suis un bon éclaireur, tu sais.
Le jeune homme sourit, mais Fayle ne se laissa pas amadouer.
Tu vas te faire tuer, imbécile mal peigné. Regarde-toi un peu, tu tiens à peine sur tes jambes. Et tu glisserais de ta selle au bout de 500 pas.
Sans trahir l'effort que ça lui coûtait, Perrine entreprit d'enfiler ses bottes. Il n'aurait qu'à s'accrocher aux rênes, et Trotteur ferait tout le travail.
C'est absurde. Je suis en pleine forme. Mais toi, arrête de m'houspiller. »
Sur ces mots, Perrine s'empara de sa ceinture et de son arme. Au moment où il ouvrit la porte, Fayle voulut le retenir par le bras, mais il l'entraîna avec elle.
« Parfois, tu es moins intelligent qu'une poule !»
s'indigna Fayle.
« Perrine, il faut que tu m'écoutes. Tu dois... »
La chambre n'était qu'à quelques pas de l'escalier menant à la salle commune. Hélas, les marches trahirent Perrine. Quand il plia un genou pour négocier la première, sa fichue jambe resta dans cette position et il bascula en avant.
Incapable de se tenir à la rampe, il entraîna Fail avec lui. Dégringolant l'escalier, les deux jeunes gens percutèrent le tonneau rempli d'épées posé au pied des marches. Fail atterrit sur son compagnon, qui eut besoin d'un petit moment pour reprendre son souffle et ses esprits.
« Tu vas bien ?»
demanda-t-il nerveusement. Pas de réponse, ni de mouvement.
« Fail, est-ce que tu... »
La jeune femme leva la tête et écarta de son front quelques mèches brunes vagabondes.
« Et toi ?»
demanda-t-elle en foudroyant Perrine du regard.
« Parce que si c'est le cas, il se peut bien que ça ne dure pas très longtemps, avec ce que je vais te faire. »
Perrine grogna, certain qu'elle était moins amochée que lui. Angoissé, il palpa l'emplacement de sa blessure, mais il ne trouva rien de particulièrement inquiétant. Il y avait mal, certes, mais c'était le cas pour tout le reste de son corps.
« Lève-toi de sur moi, Fail. Il faut que j'aille chercher Trotteur. »«
Écoute-moi bien, Perrine. Tu ne peux rien faire. Si Loyal et Gaul sont partis verrouiller le portail, tu ne peux plus les en empêcher, parce que ta place est ici. Tu m'entends ? Même si tu étais en forme, tu ne devrais pas partir. Tu ne l'es pas, mais au fond, ça ne change rien. Un homme ne peut pas tout faire. Qu'est-ce que vous fichez, tous les deux ? »
demanda Marine Alvéré en approchant.
« Avec un tel vacarme, je m'attendais à une attaque de Trolloc. Mais pas à un tel spectacle. »
Sourcils froncés, l'aubergiste semblait à la fois scandalisé et amusé. Bien entendu, comprit Perrine, dans cette position, ils avaient l'air d'un couple en train de se cajoler, au pied d'un escalier. Rouge comme une pivoine, Fail se leva vivement et épousta ses jupes.
« Il est plus têtu qu'un Trolloc, maîtresse Alvéré. Je lui ai dit qu'il n'était pas assez remis pour se lever. » Il doit retourner au lit, un point c'est tout. Et apprendre qu'il ne peut pas tout faire. Surtout quand il est incapable de descendre quelques marches. Non, non.
Murmura maîtresse Alvéré en secouant la tête.
Il ne faut pas s'y prendre comme ça.
Elle se pencha vers Fail pour lui parler à l'oreille, mais Perrine entendit tout.
La plupart du temps, c'était un petit garçon obéissant quand on savait s'y prendre. Mais lorsqu'on essayait de le brusquer, il devenait la pire tête de pioche de rivière. Avec les années, les hommes grandissent, mais ils ne changent pas tant que ça. Si tu lui dis ce qu'il doit faire, il va se braquer et tu n'en tireras plus rien. Laisse-moi te montrer. »
Marine sourit à Perrine et ignora superbement son regard furibond.
« Mon garçon, tu ne trouves pas que mon matelas est plus confortable que mon parquet ? Dès que tu seras recouché, je t'apporterai une tourte au rognon. Tu dois mourir de faim, je parie. Tu veux bien que je t'aide à te relever ?»
Repoussant Marine, Perrine se remit debout tout seul, enfin, avec l'aide du mur. On eût dit que la moitié de ses muscles était hors d'usage, l'autre lui faisant un mal de chien. Tête de pioche, lui, alors qu'il était depuis toujours doux comme un agneau.
« Maîtresse Alvéré, pouvez-vous demander à Hou ou à Tad de sceller Trotteur ?»«
Oui, quand tu iras mieux. »
répondit Marine, en tentant de pousser le jeune homme vers l'escalier.
« Tu ne penses pas qu'un peu de repos supplémentaire te ferait du bien ?»
Fail vint prendre l'autre bras du convalescent.
« Trolloc !»
cria une voix venue de dehors.
« Trolloc ! Trolloc ! Trolloc ! Trolloc ! Trolloc !»
lui firent écho de dizaines d'autres voix.
« Perrine, aujourd'hui ça ne te concerne pas. »
dit maîtresse Alvéré avec un savant mélange d'autorité et de bienveillance. Exactement le genre de manœuvre féminine qui donnait envie de grincer des dents à l'ancien apprenti forgeron.
Les Aes Sedai vont se charger de tout,
continua Marine.
Dans un jour ou deux, tu seras sur pied et tu verras par toi-même.
Mon cheval,
marmonna Perrine. Il tenta de se dégager, mais les deux femmes avaient de la poigne.
Pour l'amour de la lumière, vous voulez bien arrêter de tirer sur mes manches et me laisser sortir ? Lâchez-moi, bon sang !
Levant les yeux sur son compagnon, Fail soupira et lui lâcha le bras.
Maîtresse Alvéré. Vous voulez bien demander qu'on selle son cheval et qu'on le conduise devant l'auberge ? Mon enfant, il a vraiment besoin de repos. Je vous en prie, maîtresse Alvéré, et qu'on amène aussi ma monture.
Oubliant tout à fait la présence de Perrine, les deux femmes se défièrent du regard. Puis Marine hocha la tête. Perrine la regarda s'éloigner, n'en croyant pas ses yeux. Comment Fail avait-elle réussi cet exploit ? Et qu'avait-elle dit de plus que lui ?
Pourquoi as-tu changé d'avis ?
Demanda-t-il à la jeune femme. Rentrant la chemise de Perrine dans son pantalon, Fail murmura entre ses dents.
« Je ne dois pas lui dire que faire, c'est bien ça. Quand il est plus entêté qu'un âne, je dois l'amadouer en étant tout sucre et tout miel. »
Fail coula à Perrine un regard qui aurait glacé les sangs d'un Trolloc.
puis elle lui fit un sourire si mielleux qu'il faillit reculer de deux pas.
« Mon cher cœur, »
dit-elle en tirant sur la veste du jeune homme.
« Quoi qu'il se passe dehors, j'espère que tu resteras sur ta selle et le plus loin possible des Trollocs. Pour le moment, tu n'es pas en état d'affronter un de ces monstres. Demain, peut-être. Mais souviens-toi que tu es un général, un chef et un symbole. Exactement comme cet étendard à tête de loup. Si les gens te voient, ça leur gonflera le moral. Et si tu ne te mêles pas directement du combat, il te sera plus facile d'estimer la situation et de donner les ordres idoines. »
Fail ramassa la ceinture de Perrine, la boucla autour de sa taille et positionna soigneusement la hache sur sa hanche.
« Tu feras ce que je dis ?»
susurra-t-elle.
« Pour moi ?»
Perrine dut reconnaître qu'elle avait raison. Dans son état, il n'aurait pas tenu 2 minutes contre un Trolloc, et pas 2 secondes face à un blafard. Et même si ça le révulsait, il fallait bien admettre qu'il n'avait aucune chance de rester en selle assez longtemps pour rattraper Loyal et Gaul.
« Oh, brutis d'Augier, tu es un écrivain, pas un héros. C'est d'accord, »
dit Perrine, repensant à la manière dont les deux femmes avaient parlé de lui comme s'il était quantité négligeable, et au numéro que venait de lui faire sa compagne. Il céda à une impulsion à rien espiègle.
« Quand tu souris comme ça, je ne peux rien te refuser. »«
Eh bien, j'en suis ravi, »
dit Fail en retirant de l'épaule du jeune homme un grain de poussière minuscule.
« Parce que si tu ne m'écoutes pas, et que ça ne te tue pas, je te ferai ce que tu m'as fait le premier jour de notre voyage dans les chemins. Et je doute que tu sois assez fort pour m'en empêcher. »
Elle sourit de nouveau, plus mielleuse que jamais.
« Me suis-je bien fait comprendre ?»
Perrine ne put s'empêcher de ricaner.
« On dirait que j'aurais mieux fait de me laisser tuer par les Trollocs. »
La jeune femme ne sembla pas apprécier son humour. Pou et Tad arrivèrent avec les chevaux moins de 5 minutes après que les deux jeunes gens furent sortis de la cascade à vin. Les villageois et les réfugiés étaient rassemblés à la lisière du village, au-delà de la place verte où les moutons et les vaches broutaient comme d'habitude, autour du grand mât où l'étendard à la tête de loup flottait au vent. Dès que Fail et Perrine furent en selle, les deux garçons d'écurie se précipitèrent vers la foule sans dire un mot. Quoi qu'il se passât, ce n'était pas une attaque. Des femmes et des enfants se tenaient parmi les hommes, et le cri « Trolloc » n'était plus qu'un murmure qui paraissait faire écho au caquettement des oies. Soucieux de ne pas vaciller sur sa selle, Perrine chevaucha lentement. Fail fit avancer Hirondelle sur les talons de trotteur, sans doute pour mieux surveiller son patient. Puisqu'elle avait changé d'avis une fois, rien n'empêchait que ça se reproduise. Prudent, Perrine évita de parler, afin de ne pas relancer la polémique sur son état et sur tout le reste. La foule, dont les murmures ne cessaient pas, réunissait en effet toutes les personnes présentes à Champ-des-Mondes. Dès qu'ils virent qui approchait, les villageois et les réfugiés s'écartèrent pour laisser passer Yeux Jaune, un surnom qui revenait presque aussi souvent que le vrai nom de Perrine, et sa compagne. Perrine entendit plusieurs fois le mot « Trolloc », mais il y avait dans ses murmures plus de surprise que de terreur. Sur sa monture, le jeune homme put voir bien au-delà des premiers rangs. Le plus avancé, constata-t-il, se tenait au bord du terrain hérissé de pieux. La lisière de la forêt, à 600 pas de là, au bout d'un terrain découvert semé de souches, n'était pour l'heure pas occupée par des bûcherons improvisés, car ceux-ci, torse nus et ruisselant de sueur, formaient un cercle serré au milieu de la foule, entourant ainsi Alana, Vérine et 2 hommes. Le meunier, John Tain, essuyait le sang qui maculait ses côtes, son menton pointu baissé sur sa poitrine afin de voir ce qu'il faisait. Penché sur l'autre homme, un type aux cheveux gris que Perrine n'avait jamais vu, Alana se releva lentement. Aussitôt, l'homme se remit debout et esquissa 2 ou 3 pas de danse comme pour se prouver qu'il tenait bien sur ses jambes. La foule était bien trop serrée autour des Aes Sedai pour que quiconque puisse s'écarter. En revanche, Thomas et Yvonne se trouvaient à un endroit plus accessible. Sans doute parce que les gens n'avaient guère envie d'approcher de leurs impressionnants destriers, qui semblaient n'attendre qu'un prétexte pour mordre ou piétiner. Perrine réussit à rejoindre Thomas sans trop de difficultés.
« Que s'est-il passé ?»«
Un Trolloc. Un seul. »
Même s'il parlait sur le ton de la conversation, le champion ne regardait pas Perrine et Fail, car il surveillait en même temps Vérine et la lisière des arbres.
« Tout seul, un Trolloc n'est en général pas très futé. Bah toi, peut-être, mais pas intelligent. Les bûcherons l'ont chassé avant qu'il ait fait de véritables dégâts. »
Les 2 aïeuls sortirent soudain du bois de l'ouest, leurs choufas et leurs voiles interdisant de les distinguer l'une de l'autre. Ralentissant un peu pour se faufiler entre les pieux, elles fendirent ensuite la foule, qui s'écarta autant que c'était possible, nota Perrine. Leurs voiles baissées, Chiad et Bane vinrent faire leur rapport à Fail.
« 500 Trollocs !»
annonça Bane.
« À moins d'une demi-lieue derrière nous !»
Si la voix de Layel ne tremblait pas, ses yeux, comme ceux de son ami, brillait de détermination et d'excitation.
« C'est ce que je pensais, »
dit Thomas.
« Le nôtre a dû s'éloigner du gros de la troupe pour trouver de quoi manger. Mais ses compagnons ne tarderont pas à arriver. »
Les deux promis acquiescèrent. Accablés, Perrine désigna la foule.
« Ces gens ne devraient pas être là. Pourquoi ne les avez-vous pas fait partir ?»
Ce fut Yvonne qui répondit.
« Quand ils peuvent voir des Aes Sedai, les compatriotes ne semblent pas disposés à écouter des étrangers. Tu serais bien inspiré d'essayer. »
Perrine aurait juré que les deux champions, s'ils l'avaient voulu, auraient pu imposer un semblant d'ordre. En tout cas, Vérine et Alana auraient dû réussir.
« Avec la menace des Trollocs, pourquoi ont-ils attendu que j'arrive ?»
Le plus simple aurait été de mettre ça sur la nature de taverne de Perrine. Simple et totalement idiot. Yvonne et Thomas n'étaient pas du genre à se faire étriper ou à perdre Vérine et Alana parce qu'ils attendaient qu'un taverne leur dise que faire. Non. Les Aes Sedai manipulaient Perrine, mettant en danger tout le monde, y compris elle-même. Mais dans quel dessein ? Perrine croisa le regard de Fail, qui hocha la tête comme si elle lisait ses pensées. Ce n'était pas le moment de résoudre une énigme. Sondant la foule, il repéra Bran Alvéré à côté de Tamaltor et d'Abel Cotton. Une longue lance sur l'épaule, le bourgmestre portait sur la tête un antique casque rond en acier. Une jaquette de cuir recouverte de disques de métal couvrait son torse impressionnant. Les trois hommes levèrent les yeux lorsque Perrine les rejoignit.
« Bane dit que les Trollocs approchent !»
annonça-t-il.
« Et les champions pensent qu'ils attaqueront bientôt !»
Pour couvrir les murmures, le jeune homme dut élever la voix. Du coup, les villageois les plus proches se turent, fronçant les sourcils lorsqu'ils entendirent les mots « Trolloc » et « Attaque ».«
Eh bien, il fallait s'y attendre, non ?»
fit Bran.
« Et nous savons que faire !»
Avec son plat à barbe sur la tête et sa jaquette trop petite pour lui, l'aubergiste aurait pu paraître ridicule, mais sa résolution faisait oublier tout le reste.
« Perrine vient de me dire que les Trollocs seront bientôt là !»
lança-t-il à voix haute.
« Tous à vos postes ! Plus vite que ça !»
La foule se dispersa. Pendant que les femmes conduisaient les enfants à l'abri, les hommes partirent prendre leur position, pas vraiment en bon ordre cependant.
« Je vais aller chercher les bergers !»
dit Abel à Perrine avant de s'enfoncer dans la foule. Senbuy passa à côté de Perrine et de ses compagnons. Brandissant une hallebarde, il jouait les officiers avec un groupe composé de Harry Coplin, de son frère Darl et du vieux Billy Congar, qui titubait comme s'il avait déjà vidé plusieurs chopes de bière à une heure si matinale. Des trois idiots, c'était encore lui qui tenait son arme comme s'il avait vraiment l'intention de l'utiliser. En passant, Sen salua Perrine en portant sa main à son front. Le vieux couvreur n'était pas le premier à se comporter ainsi, et ça mettait Perrine horriblement mal à l'aise. Avec Daniel et les autres garçons, ça passait encore. Mais tous ces hommes avaient au moins 10 ans de plus que lui.
« Tu t'en sors très bien !»
souffla Fail.
« J'aimerais savoir ce que mijotent Vérine et Alana. Et pas seulement depuis ce matin. »
Deux des catapultes construites selon les instructions des champions avaient été placées de ce côté du village. Perchés sur leur monture, Yvonne et Thomas assistaient désormais à l'armement de ces engins de lancer bien plus grands qu'un homme. Les deux Aes Sedai, elles, semblaient fascinées par les énormes pierres, dont les 15 à 20 livres chacune, qu'on déposait dans les paniers de cuir accrochés au bout des bras de lancement.
« Elles veulent que tu sois un chef !»
répondit Fail à la question que Perrine ne lui avait pas vraiment posée.
« Tu es né pour ça, je pense. »
Convaincu d'être né pour devenir un forgeron, Perrine ricana.
« Je me sentirais bien mieux si je savais pourquoi elles ont ces ambitions pour moi. »
Les deux sœurs le regardaient. Vérine avec son air d'oiseau de proie, Alana en affichant un demi-sourire, son regard beaucoup plus franc. Voulaient-elles toutes les deux la même chose, et pour la même raison ? C'était toujours le problème avec les Aes Sedai, plus de questions que de réponses. Au grand étonnement de Perrine, les villageois évoluaient en ordre autour de lui, comme si les hésitations du début avaient été accidentelles. Sur toute la lisière ouest du village, une centaine d'hommes s'étaient agenouillés derrière les lignes de pieux, chacun brandissant un peu maladroitement une lance, une hallebarde, une faux, ou une arme improvisée à partir d'un outil. Quelques-uns portaient un casque et une ou deux pièces d'armure dépareillées. Derrière ces piquiers, deux fois plus d'hommes de Deux-Rivières formaient une double ligne d'archers armés d'un arc long du territoire. Tous portaient deux carquois à la ceinture, et des adolescents leur apportaient régulièrement des brassées de flèches qu'ils plantaient pas trop profondément en terre devant leurs pieds. Tam semblait avoir pris le commandement de cette force, mais Bran l'accompagnait et lui aussi encourageait les vaillants guerriers. Perrine se demanda au nom de quoi tous ces braves gens auraient eu besoin de lui. Il faillit sursauter de surprise quand Daniil, Ban et tous les autres garçons qui l'avaient suivi dans son absurde aventure sortirent du village, tous armés d'un arc, pour venir se camper autour de leur chef et de sa compagne. Perrine trouva que ces hommes avaient l'air bizarres. Apparemment, les Aes Sedai avaient guéri les blessés les plus graves, confiant les autres aux bons soins de Daze et de ses potions et cataplasmes. Du coup, les héros qui tenaient à peine en selle la veille marchaient la tête bien droite, tandis que Daniil, Tel et d'autres boitillaient toujours ou arboraient de gros pansements. S'il fut surpris de voir ses compagnons, Perrine eut la nausée en découvrant sous quel étendard il défilait. Le pansement qui couvrait la partie supérieure de son crâne donnant l'impression qu'il portait un chapeau blanc, Léof Thorfinn, l'arc attaché dans le dos, brandissait une longue hampe au bout de laquelle flottait une version réduite de l'étendard bordé de rouge orné d'une tête de loup.
« C'est l'œuvre d'une des Aes Sedai !»
répondit Léof quand Perrine lui demanda d'où il tenait cet objet.
« Mili Ayelin l'a porté au père de Will. Finalement, c'est moi qui le porte, parce que Will n'a pas voulu. »
Will Alcyn se fit soudain tout petit.
« J'aurais également refusé. »
lâcha Perrine. Tous ces hommes éclatèrent de rire, y compris Will après une brève hésitation, certains que leur chef venait de faire un bon mot. Abandonnant le sujet, Perrine s'intéressa à la situation militaire. La haie de pieux était impressionnante, il n'y avait rien à redire. Mais de là à pouvoir retenir des trolloques, comme ça n'était pas garanti, Perrine aurait préféré que Fail soit ailleurs si les monstres passaient. Mais il regarda sa compagne et vit briller dans ses yeux la fameuse lueur qui n'augurait rien de bon. Comme si elle devinait ce qu'il pensait. S'il tentait de la renvoyer, elle refuserait, polémiquerait et s'entêterait au-delà du sens commun. Dans l'état où était Perrine, elle avait toutes ses chances de le ramener à l'auberge par la force. En revanche, le contraire n'était pas vrai. À la façon dont elle paradait sur sa selle, elle avait l'intention de défendre son homme si les trolloques débordaient les lignes de pieux, de piquiers et d'archers. Dans ces conditions, Perrine devrait se résigner à veiller sur elle sans qu'elle le remarque trop. Voyant Fail sourire sans raison apparente, le jeune homme se gratta la barbe, pensif. Pouvait-elle vraiment lire dans son esprit? Au fil des minutes, puis des heures, le soleil monta dans le ciel et il fit de plus en plus chaud. De temps en temps, une femme se mettait à sa fenêtre et demandait où on en était. Quelques hommes avaient tenté de s'asseoir, mais Tam ou Bran étaient vite venus les obliger à reprendre leur place dans les rangs. Qu'avait donc dit Bane? Les trolloques étaient à moins d'une demi-lieue? Pour l'instant, les deux aïelles étaient assises non loin des pieux, et elles s'exerçaient à un jeu dont le but semblait être de planter un couteau dans la bande de terre qui les séparait. Si les trolloques avaient eu l'intention d'attaquer, ils auraient déjà dû se montrer. De plus en plus fatiguée, Perrine avait du mal à se tenir droit sur sa selle. Conscient que Fail ne le quittait pas des yeux, il essayait de ne pas montrer sa faiblesse. Une sonnerie de corps déchira soudain le silence.
« Des trolloques ! Des trolloques !
Des trolloques ! Des trolloques ! Des trolloques !
Des trolloques ! »
crièrent une dizaine de voix. Des monstres jaillirent du bois de l'ouest, hurlant à la mort tandis qu'ils chargeaient, leurs lames incurvées, leurs haches, leurs lances et leurs tridents prêts à frapper. Trois myrdrals chevauchaient derrière la horde, la poussant à avancer comme des taureaux furieux. Comme toujours, les capes noires des blafards ne bougeaient pas d'un pouce, quelle que soit la violence des mouvements de leur monture à la robe d'obscurité. Comme pour aiguillonner les trolloques, le cor sonnait de plus en plus fort. 20 flèches zébrèrent l'air à l'instant même où le premier monstre apparaissait. Bien entendu, le tir le plus long échoua quelques 100 pas avant sa cible.
« Ne gaspillez pas vos flèches, tas de crétins sans cervelle !»
beugla Tam. Bran sursauta puis jeta au père de Rand un regard courroucé. D'autres villageois tournèrent la tête comme s'ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Même face à des trolloques, murmurèrent certains, de tels écarts de langage n'étaient pas tolérables. Tam ne sembla pas ébranlé par ces critiques.
« Ne tirez pas tant que je ne vous aurai pas donné le signal convenu !»
dit-il. Comme s'il ne faisait pas face à des centaines de trolloques assoiffés de sang, il se tourna très calmement vers Perrine.
« 300 pas !»
Le jeune homme hocha la tête. Tam lui posait la question à lui. « 300 pas. Combien de temps fallait-il à un trolloque pour couvrir cette distance ?» Perrine s'assura que sa hache ne se coincerait pas dans sa ceinture. Le corps sonnait toujours, et les piquiers, accroupis derrière les pieux, semblaient mobiliser toute leur volonté pour ne pas céder un pouce de terrain. Les aïels s'étaient voilés, bien entendu. Les monstres géants déferlaient comme une marée mortelle. 500 pas. 400. Quelques-uns se détachaient de la horde, courant plus vite que des chevaux. Les aïels ne s'étaient-elles pas trompés? 500 trolloques seulement? On eût dit qu'il y en avait des milliers.
« Prêt !»
cria Tam. 200 arcs se levèrent en même temps. les héros de Périne, imitant leurs aînés, se mirent en formation serrée devant leur chef, se ralliant tous au lamentable étendard. 300 pas. Désormais, Périne voyait les gueules déformées des monstres comme s'ils avaient déjà été à 20 pas de lui.
« Tirez !»
cria Tam. Les cordes vibrèrent ensemble, produisant un claquement de lanières de fouet géantes. Une série de grincements puis de bruits secs indiqua que les deux catapultes venaient de tirer. Des flèches à grosse tête tombèrent en pluie sur les attaquants. Plusieurs s'écroulèrent, mais trop souvent pour se relever ensuite, poussés en avant par les blafards. La sonnerie du corps, désormais, évoquait les hurlements d'une bête sauvage. Les pierres des catapultes atterrirent au milieu des trolloques et explosèrent en une multitude de fragments qui semèrent la mort parmi les monstres. C'était donc pour ça que les Aes Sedai étaient fascinés par les projectiles. Mais qu'arriverait-il si un servant des catapultes en laissait tomber un accidentellement? D'autres volées de flèches s'abattirent sur les monstres. D'autres pierres explosives aussi, mais à un rythme moins rapide. Déchiquetés, criblés de flèches, les trolloques tombaient comme des mouches. Ils continuaient pourtant à déferler sur les défenseurs, arrivant à la distance où les archers, s'écartant les uns des autres, cessèrent de tirer par volée, mais commencèrent à choisir chacun une cible. Eux aussi hurlaient de rage face à la mort qui fondait sur eux. Soudain, il n'y eut plus un seul trolloque sur ses jambes. Un dernier blafard, le torse hérissé de flèches, continuait à zébrer l'air avec sa lame. Les hennissements de douleur d'une des montures noires dominant les gémissements des trolloques agonisants, le corps ne sonnait plus, et Périne parvenait à capter les halètements des défenseurs essoufflés comme s'ils venaient de courir 4 lieues sans s'arrêter. Le jeune homme s'avisa que son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine. Quelqu'un lança un cri de victoire qui fut aussitôt repris par des centaines de gorges. Propulsant leur casque dans les airs, l'arc levé en signe de triomphe, les vainqueurs exultèrent. Des femmes sortirent des maisons, leurs enfants sur les talons, pour venir célébrer la victoire avec leur mari, leur père ou leur frère. Certaines coururent vers Périne pour lui serrer la main.
« Tu nous as menés à la victoire, mon garçon !»
s'écria Bran.
« Une grande victoire ! Mais je ne devrais peut-être plus t'appeler, mon garçon !»
Le casque sur la nuque plus que sur le crâne, le bourgmestre exultait.
« Je n'ai rien fait du tout !»
dit Périne.
« À part rester en selle, c'était votre victoire !»
Bran n'entendit pas les protestations du jeune homme. Gêné, Périne se redressa, faisant mine d'observer le champ de bataille. Peu à peu, ses admirateurs lui fichèrent la paix. Dédaignant les manifestations de joie, Tam se tenait derrière les pieux et il étudiait les trolloques. Comme le père de Rand, les deux champions ne jubilaient pas. Près de 500 cadavres jonchaient le terrain découvert. Quelques survivants, à n'en pas douter, auraient dû retourner dans la forêt. Lors de l'assaut, pas un seul monstre n'était parvenu à moins de 50 pas des premiers pieux. Balayant la zone du regard, Périne repéra les deux autres blafards qui se contorsionnaient toujours sur le sol. De guerre lasse, ils finiraient par admettre qu'ils étaient morts. Soudain, un cri monta de toutes les gorges.
« Pour Périne Yeux-Jaunes ! Hip 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 ! Hourra ! Pour Périne Yeux-Jaunes ! Hip 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 ! Hourra ! Pour Périne Yeux-Jaunes ! Hip 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 ! Hourra !
Pour Périne Yeux-Jaunes ! Hip 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 ! Hourra ! »
Il le savait,
marmonna le jeune homme. Surprise, Fail l'interrogea du regard.
Les Myrdraal devaient savoir que cette attaque échouerait. Regarde, c'est évident. Ils ne pouvaient pas espérer submerger nos défenses. S'ils n'avaient pas plus de monstres, pourquoi ont-ils essayé? Et s'il y a d'autres trolloques ailleurs, pour quelles raisons n'ont-ils pas attaqué? 2 fois plus de trolloques, et il aurait fallu se battre au niveau du champ de pieux. 4 fois plus, et ils seraient arrivés dans le village.
« Tu as l'œil d'un stratège né, »
dit Thomas, toujours perché sur son cheval.
« C'était une épreuve, pour voir si les défenseurs se débanderaient, et afin de mesurer leur vitesse de réaction et leur coordination. J'oublie sans doute quelques points encore, mais c'était incontestablement un coup de sonde. Et maintenant, ils observent le résultat. »
Le champion désigna le ciel, où un corbeau solitaire décrivait de grands cercles au-dessus du champ de bataille. Un banal oiseau se serait posé pour se repaître des cadavres. Son dernier cercle achevé, celui-là fila en direction de la forêt.
« L'attaque suivante n'est pas pour tout de suite. »
continua Thomas.
« 2 ou 3 trolloques survivants ont atteint la forêt, et ils raconteront le massacre à leurs camarades. Les blafards vont devoir rappeler aux monstres qu'avoir affaire à eux est un sort pire que la mort. Mais une autre attaque aura lieu, et elle sera bien plus massive que celle-là.
Sa violence dépendra du nombre de Trollocs qui auront franchi le portail.
Et s'il y en a 10 000 ?
Demanda Perrine.
C'est peu probable,
répondit Vérine. Approchant du cheval de Thomas, elle lui flatta l'encolure.
Même un rejeté ne peut pas faire transiter toute une armée par les chemins. Un homme seul risque la mort ou la folie quand il voyage entre deux portails, même très proches l'un de l'autre. Mais 1 000 hommes, ou 1 000 Trollocs, attireraient immédiatement Massin Chin, qui se jetterait sur eux comme une abeille géante sur un pot de miel. Bien entendu, nous ignorons combien de groupes plus petits ont tenté l'aventure, et à quelle fréquence. Mais nos ennemis auront subi des pertes de toute façon, même si les créatures des ténèbres étaient un même moins appétissants que des humains pour Massin Chin. Une possibilité fascinante, je dois dire.
Après avoir tapoté la jambe de Thomas exactement comme elle avait flatté le cheval, l'Aes Sedai s'éloigna, déjà perdu dans ses spéculations. Talonnant sa monture, le champion la suivit.
« Si tu avances vers le bois de l'ouest, »
dit Fail, très calme,
« même d'une seule foulée de trotteurs, je te ramènerai à l'auberge en te tirant par l'oreille, et je te mettrai au lit comme un gamin de 5 ans. »«
Je n'y pensais même pas, »
soupira Perrine. Il fit volter Trotteur afin qu'il tourne le dos au bois. Un homme et un ogier pouvaient passer inaperçus et atteindre les montagnes.
« Pouvaient. »
Si Champ des Mondes voulait avoir une chance, il fallait verrouiller ce maudit portail.
« Tu m'as convaincu que c'était stupide, as-tu oublié ?»
S'il savait où les chercher, un autre homme pouvait rejoindre les deux héros. 3 paires d'yeux valaient mieux qu'une, surtout quand la sienne était dans le lot. Ici, il ne servait à rien, et ça ne changerait pas de sitôt. Un épouvantail portant ses habits et perché sur Trotteur aurait été aussi utile. Soudain, couvrant les cris de joie des défenseurs, le jeune homme entendit des hurlements qui montaient du sud, non loin de l'ancienne route.
« Pas pour tout de suite, la deuxième attaque !»
Perrine lança Trotteur au galop, vers l'endroit d'où montait la clameur.